Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle stratégie adopter pour lutter contre la violence numérique à l'égard des femmes et des jeunes filles? On en parle dans cette émission avec Maître Barthélémy Sebouyangé, expert en VBG, en violence basée sur le genre, et directeur exécutif de la clinique juridique Justice pour tous. Maître Barthélémy, bonjour. Bien, on va les retrouver dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Interdiction des fonctionnements des cliniques de chirurgie esthétique en RDC. Les cliniques qui pratiquent l'opération dénommée BBL. Voilà, toutes ces cliniques ne sont plus autorisées à fonctionner en République démocratique du Congo. On en parle avec Dr Kibadi Anatole, président de la Société des chirurgies plastiques reconstructives et esthétiques de la République démocratique du Congo. Ça sera à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangassa est à la technique. Jonathan Chimanga assure la retransmission live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous allons parler à présent des violences numériques à l'égard des femmes et des jeunes filles. Dans notre ère numérique, de nombreuses femmes et jeunes filles sont confrontées à des violences sur les réseaux sociaux. Bien souvent, il s'agit des écrits, des audios ou des vidéos pour les diffamer, insulter ou discréditer la femme et la jeune fille. Dans de nombreux cas, certains internautes publient des vidéos ou des photos des nudités de certaines femmes dans les buts de les dénigrer. Selon les experts, l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue aussi un outil efficace pour qui favorise les violences basées sur le genre sur le net. Au-delà des campagnes de sensibilisation, des défis majeurs persistent, notamment l'application effective des lois pour sanctionner les auteurs de ces violences à l'égard des femmes. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont une occasion cruciale pour briser le silence et sensibiliser davantage sur ces fléaux qui gangrènent la communauté. Maître Barthélémy Sebouyangé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en violence en VBG, violence basée sur le genre, et directeur exécutif de la clinique juridique Justice pour tous. Alors, nous parlons aujourd'hui des violences numériques à l'égard des femmes et des jeunes filles. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui dans notre pays?
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je salue les auditeurs de la radio de la paix. Avant de passer au vif du sujet, il est impérieux d'abord de définir les violences basées sur le genre dans le numérique, ou qui est aussi appelé VBG en ligne, ou bien cyberviolence basée sur le genre.
Okay.
Ces violences désignent toutes les formes de violences commises facilitée ou amplifiée par la technologie numérique, Internet, réseaux sociaux, téléphones, messagerie, plateforme en ligne, dirigée contre une personne à cause de son sexe, de son identité et, ou expression de genre. Ce sont des violences numériques, mais qui reposent sur le même rapport dans la domination et dans l'inégalité de genre qui viole les hors-ligne.
Bien, alors ma question était de savoir quelle est l'ampleur de ces problèmes dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est on enregistre beaucoup plus de cas de violences numériques en RDC aujourd'hui sur les réseaux sociaux?
Oui, monsieur le journaliste, vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une zone, c'est un terrain qui est trop exploitable, surtout par la jeunesse et tout le monde qui en veut, bien sûr. Et il y a beaucoup de cas et beaucoup de violences basées sur le genre, sur le plan numérique, qui sont commises à l'égard des enfants, à l'égard des femmes, à l'égard des autorités politico-administratives. Mais malheureusement, ces violences ne sont pas cartographiées, ne sont pas certifiées, ne sont pas vraiment documentées pour que celles-ci soient réprimées. Mais c'est évident que ces violences ont ampleur et ça met en péril même la réputation et la vie humaine de toute catégorie de personnes. C'est pourquoi il est très impérieux qu'on puisse interpeller l'État afin que l'État puisse se focaliser et puisse garder un œil regardant à la répression de ces violences pour établir la paix sociétale.
Et quels sont les types de violences numériques qui reviennent le plus souvent ou que vous avez pu enregistrer, constater?
Plus souvent, nous avons documenté, certifié et cartographié l'harcèlement sexuel, le chantage, et ainsi que d'autres menaces de mort par rapport aux différentes catégories de bourreaux ou de criminels. Par exemple, les criminels armés ou bien dépositaires de pouvoir utilisent les menaces de mort pour intimider, pour violer les différentes personnes. Il y a aussi dans le monde amoureux, les jeunes garçons, les jeunes filles utilisent des chantages pour qu'ils puissent octroyer gain de cause soit sexuelle, soit amoureux vis-à-vis des filles, des femmes qu'ils convoitent.
Chantage, quel type de chantage? Par exemple, menacer une fille que vous allez publier sa vidéo de nudité ou une photo, c'est là que vous faites allusion?
Chantage, c'est-à-dire, je vous donne l'exemple concret, un garçon aime une fille, oui. Et dès que la fille n'est pas partante, le garçon dit, si tu n'es pas partante, si tu ne consens pas, je vais publier vos photos, je vais publier vos photos avec une image là très déshonorante, tout ça. Ce sont les différentes sortes de chantage.
Bien, alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies à mettre en place pour lutter contre la violence faite à la femme sur Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux?
Oui, monsieur le journaliste, vous devez d'abord savoir que la lutte contre ces violences, d'abord, appartient à l'État. C'est l'État qui doit mettre des stratégies, des mécanismes pour mettre en déroute ce type de violences. Mais actuellement, l'État, c'est ça aussi un peu limité, excusez-moi pour le terme. C'est pourquoi il y a des organisations maintenant, comme notre clinique juridique Justice pour tous, qui se range en ordre utile de bataille pour mettre des stratégies. Parmi les stratégies, nous avons deux grandes stratégies. La première, c'est la prévention. Et dans la prévention, nous misons sur la méthodologie ou bien les outils de sensibilisation. Nous sensibilisons les différentes couches sociales. Nous sensibilisons les leaders communautaires, les leaders religieux, afin qu'ils puissent intérioriser cette lutte pour, à leur niveau, qu'ils puissent aussi et perpétuer ça dans la communauté, étant donné qu'ils sont trop influents, trop influent dans la communauté. Et la deuxième stratégie, c'est la réponse ou bien la prise en charge. Dans cette prise en charge, nous avons la gestion des cas de violences basées sur le genre et particulièrement les violences numériques. Et dans cette gestion des cas, nous avons la prise en charge holistique. Cette prise en charge holistique englobe la prise en charge médicale, prise en charge psychosociale, prise en charge juridique et prise en charge psychosociale et même socio-économique, parce que une survivante qui est déjà victime, survivante des violences basées sur le genre dans le numérique, cette survivante-là doit être bénéficiaire d'une prise en charge holistique afin qu'elle puisse rétablir dans ses droits et longtemps violés.
Voilà, par exemple, un garçon qui, comme le cas que vous avez donné tout à l'heure, qui menace une femme ou une jeune fille de publier des photos, des images compromettantes, comment arriver à les amener à ne plus poser de tels actes, à ne plus faire de telles choses? Parce que souvent, les gens ont été scandalisés sur TikTok ou sur les autres réseaux en regardant ces genres d'images qui portent un discrédit sur un certain nombre de personnes.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez qu'il y a toute une panoplie juridique. Hein. Il y a les instruments juridiques nationaux, internationaux et ainsi que régionaux qui répriment ce genre de violence. C'est pourquoi, pour que ce genre de violence ne puisse plus être commise par X, Y, Z personnes, c'est pourquoi nous devons miser beaucoup sur... On doit sensibiliser toutes les couches de la population, comme je l'ai dit tantôt. On doit sensibiliser d'abord toute personne, afin que cette communauté puisse d'abord savoir quels sont les mécanismes de prévention, quels sont les mécanismes de répression au cas où la femme ou bien la fille est victime de ces violences basées sur le genre proprement dans le numérique, et quelle est la procédure à suivre, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour cristalliser les éléments de preuve, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que tellement menacé, tellement harcelé, j'étais victime de chantage de X, Y, Z, mais il faut aussi prouver, parce que la loi c'est la preuve. C'est pourquoi nous sensibilisons les différentes couches de la communauté pour que celles-ci puissent être au courant de la procédure d'abord qu'il faut prendre dès que vous êtes victime ou bien survivante de ces violences du numérique, et comment certifier, comment cristalliser, comment conserver les éléments de preuve, en fait que dès que vous voulez saisir les instances compétentes, et que cette instance compétente puisse se retrouver aussi compétente et bien saisie pour examiner ou bien pour poursuivre les bourreaux. C'est ça, c'est dans le cadre là que nous sensibilisons la communauté, en fait, que celle-ci puisse savoir comment, pourquoi, où, quelle personne saisir dès que tu es survivante ou bien victime de violences sur les gens, et surtout dans le numérique.
Alors, maître, vous avez suivi dernièrement, les réseaux sociaux étaient enflammés par une nouvelle, cette affaire de la grossesse d'une autorité, membre du gouvernement. Et ça allait dans tous les sens. Il y a des gens qui insultaient, des gens qui racontaient beaucoup de choses sur cette affaire-là. Est-ce qu'on peut qualifier cela aussi d'une sorte de violence basée sur le genre, sur le numérique?
C'est purement une violence basée sur le genre dans le numérique, parce que vous allez comprendre que la personne en question qui est victime de ce chantage, c'est une personne, une autorité détentrice d'un pouvoir public, et que les gens se réveillent un bon matin pour commencer à saper, à cracher sur la personne en question, en n'ayant pas même un élément de preuve. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, les violences du numérique est très complexe. Complexe, pourquoi? Dans la sélection des preuves. Je suis bien convaincu que toute personne qui s'est mise à saper l'autorité, à saper la personne dépositaire du pouvoir public, ce sont des personnes qui doivent être poursuivies, réprimées, et pour que cette répression soit exemplaire. Et sans oublier que la répression d'une violence basée sur le genre du numérique a un caractère dissuasif. Donc, il faut aussitôt que la personne puisse saisir les instances compétentes pour que ces personnes soient d'abord identifiées, soient documentées et tous les propos offensants qu'ils avaient lancés dans les réseaux sociaux doivent être sélectionnés, documentés, afin que la procédure judiciaire soit déclenchée.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des violences à l'égard des femmes et jeunes filles sur les numériques. Comment, quelle stratégie adopter pour en finir avec ce genre de violences? Robert Adjoku nous appelle depuis la ville de Bounia dans la province de l'Ituri. Vous voulez également participer à cette émission? Le standard est ouvert. Composez le 099-706-99-41.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, comment lutter, quelle stratégie adopter pour lutter contre la violence numérique à l'égard des femmes et des jeunes filles? Robert Adjoku, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, Radio de la paix de l'unité de cohésion nationale.
Bien,
moi je suis à Arou.
Vous êtes plutôt à Arou, d'accord.
Vraiment, je vous félicite et vous remercie. Nous saluons, félicitons très chaleureusement l'invité. Un sujet très important. On ne dira jamais assez que l'éducation constitue le fondement des pouvoirs à démocratie. La démocratie qui est du reste de notre vie. En outre, la communication sociale est très très importante. À telle enseigne que cette question doit être l'objet des préoccupations de tout le monde. Et comme vous le savez, les femmes sont pratiquement les évangélistes dans ce monde. Donc nous leur devons considération, fidélité, respect et il serait souhaitable que les autorités politico-administratives, les organes judiciaires prennent cette question au sérieux. Parce que l'honneur, la dignité, la crédibilité du peuple congolais, c'est une question individuelle et collective à la fois. Donc, vraiment, je suis très, très content. Ceux qui violent, ceux qui usent de la violence par toutes les voies, surtout par les voies des réseaux sociaux, devraient être sérieusement sanctionnés parce que c'est une question de survie, d'honneur, de dignité, de crédibilité, comme je voulais dire, et à la fois pour notre pays et pour nos estimées dames et jeunes filles. Mais elles-mêmes aussi doivent faire un effort d'être modèles, exemplaires. Voilà, il y a beaucoup de légèreté affichée par certaines femmes ou filles. Ça n'honore pas du tout. Donc, il faut vraiment une vaste campagne d'éducation, de formation, d'information et de sensibilisation.
Bien, voilà. Merci Robert Adjoku depuis Bounia. Maître Sebou Yange, vous avez la parole.
Oui, monsieur le journaliste, avant de passer au moindre détail, je devais d'abord signaler en passant les différentes caractéristiques principal des violences numériques. Oui. Nous avons l'intention de nuire, d'humilier, de contrôler ou d'intimider une personne parce qu'elle est perçue comme femme ou comme minorité et minorité de genre. Il y a aussi la diffusion rapide et incontrôlée de contenus violents grâce aux technologies, la persistance des traces numériques, ce qui peut prolonger les traumatismes et l'anonymat aussi de faciliter l'impunité des acteurs. Parmi ça, nous avons les formes. Il y a aussi les formes de violences numériques, parce que vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, que les violences sur les jeux dans le numérique, ce sont des violences particulières. Nous avons le cyberharcèlement sexiste, nous avons la cyberintimidation sexuelle, il y a la diffusion non consentie même d'images intimes, il y a l'extorsion, il y a les traques numériques, il y a l'usurpation d'identité, la captation et exploitation sexuelle en ligne. Il y a aussi la discrimination algorithmique. Alors, monsieur le journaliste, moi je voulais parler un peu sur les 16 jours d'activisme de lutte contre les VBG qui est toujours célébré chaque année.
Oui.
Ça toujours chaque année, bien sûr, mais maintenant, il y a maintenant une question fondamentale qu'il faut se poser. Quel est l'impact de ces différentes célébrations? Quelle est l'évaluation? On doit faire une évaluation. On doit se remettre en cause. Après avoir passé les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sur le genre, quelles sont les avancées? Quel est l'impact de ces 16 jours d'activisme dans la communauté? Quels sont les résultats palpables? Parce qu'il ne suffit pas seulement de célébrer, et puis il faut maintenant penser à la pré-célébration. Oui, monsieur le journaliste.
D'accord.
Nous pensons qu'il y a des choses, qu'il y a des émissions radiodiffusées, il y a des formations, des campagnes de sensibilisation. Tout ça, c'est bien. Maintenant, les retombées de cette sensibilisation dans la communauté.
D'accord.
Quels sont les résultats palpables?
Bien, maître Barthélémy, un instant, le temps d'accueillir deux auditeurs, Ismaël de Lumbashi et Jeannot Louemboué de Likasi. Ismaël Mumpoy, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour Jody, et merci de m'avoir accordé la parole.
Allez-y.
Merci beaucoup. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, marque un peu les comportements et l'habitude que la Bible qualifie en 1 Timothée le dernier jour. Tenez que, on dit, côté des femmes, sont ceux qui s'habillent très mal, qui exposent leur nudité, presque à moitié visible, ce qui attire les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel. Cela pousserait à tous ceux qui sont à côté d'elles d'être harcelés ou d'être poursuivis pour telle ou telle relation ou pour tel ou tel objectif. Si vous prenez ou vous faites les sondages sur l'Internet, vous trouverez que ce sont les femmes qui sont plus que les hommes sur les réseaux sociaux. Mais à des fois, même des femmes mariées, on se demande à quelle heure elles préparent même le foie à la maison. Cela n'empêcherait pas que les femmes pouvaient avoir une dignité et que les hommes pouvaient les respecter. La grande question que je me pose et que je pose à l'invité est celle de savoir, est-ce que les réseaux sociaux sont réglementés par le gouvernement? Est-ce que ça fait partie aussi des médias ou c'est une branche qui est sous tutelle des individus qui peuvent faire n'importe quoi, insulter, injurier? Aujourd'hui, on parle aussi de cybercriminalité pour les femmes. Mais par contre, les hommes aussi, on pouvait parler aussi de ces habits et pour les femmes et pour les hommes, c'est vice-versa ou recto-verso. Il a fallu assez qu'on puisse voir entre les hommes et les femmes qui fait des avances avant l'autre. Parce que quand une femme fait des avances, là, on ne parle pas de violations, on ne parle pas des violences sexuelles, mais si cette même femme qui a fait des avances perd un homme, et que cette relation n'aboutit pas ou ne soit pas conclue, et que l'homme publie ses photos, ses sales photos, c'est là où il y aura les problèmes. Mais quels sont les mécanismes que le gouvernement et le ministre des médias peuvent mettre en œuvre pour lui que tous ceux qui commettent des abus, que ce soit des abus sexuels, que ce soit des violations, que ce soit cybercriminalité, qu'ils soient poursuivis par l'État, et quelles seront les sanctions que le gouvernement peut infliger à cette personne. Ce que nous remarquons, c'est que ces réseaux ou l'Internet, mais qui peut sanctionner l'autre? Parce que certaines images viennent de pays lointains, celui qui est congolais mais qui vit en France peut faire cela, il peut publier un président de la République, lui.
Bien, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout est possible.
Oui, allô?
Oui, merci beaucoup Ismaël Mumpoy. On a compris votre préoccupation. Jeannot Louemboué de Kolwezi, bonjour.
Monsieur Jody, je vous salue.
On vous écoute.
Oui, merci du thème, hein, du choix fait pour le thème. Je suis un peu, en fait, quand je vous ai lu, lisant votre publication, du thème, je me suis dit, ben, il faut qu'on en parle vraiment. Monsieur Jobi, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de confrontation. C'est-à-dire, Dieu a délibérément choisi de créer deux genres, celui masculin et féminin. c'est-à-dire un monde de méritocratie, où quand vous êtes bon, vous avez certaines capacités, vous méritez ce que vous devez mériter. C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, depuis tous les jours. Parlant de ce sujet, je me pose des questions du genre, qu'est-ce que les femmes peuvent mettre sur la table pouvant contraindre leurs adversaires, pas dans le sens mauvais, hein, qui sont les hommes, à leur donner ce respect qu'elles recherchent. Parce que nous parlons du numérique, là. Tout ce que je vais dire, c'est par rapport au numérique, hein, et le moment qui est avec vous là-bas ne m'entend pas dire. Qu'est-ce qu'elles mettent sur la table pour pouvoir contraindre les hommes à leur donner ce respect qu'elles recherchent? Le monde a toujours été disposé à pouvoir donner à la femme tout ce qu'elle revendique, tout ce qu'elle réclame. Le 8 mars, journée du droit de la femme, on a déjà donné tout ça. Et je me sens que les femmes ne nous rendent pas la tâche facile. Elles sont en train de vouloir une chose et son contraire. Vous voulez le respect sur Internet, qu'on vous respecte, mais c'est vous qui vous débarquez dénudé. Vous voulez qu'on vous respecte sur Internet ou sur le numérique, c'est vous qui vous faites coach sexuel. Je suis en train de... En fait, il y a quelques jours, vous voyez certaines vidéos sur TikTok d'un certain journaliste avec qui on avait été dans une émission sur TikTok, en train de nous expliquer en maîtresse de classe. Je sais que tout ce qu'il y a de l'intimité des femmes, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Quand il y a scandale sexuel, très souvent, ce sont les femmes sur Internet. Oui, je dis, et je reconnais qu'il y a aussi des hommes qui les font, mais les hommes sont comme dans une sorte d'unité sans qu'on les dise réellement. Donc, on se protège sans qu'on se les signale. Il peut y avoir un scandale sexuel sur un homme, ça n'aura pas beaucoup d'ampleur.
Que si c'était pour le cas d'une femme.
On va vite effacer cela. Donc, les femmes ne nous facilitent pas la tâche. Elles sont en train de vouloir le respect, oui. Mais qu'est-ce qu'elles mettent sur la table en contrepartie pour pouvoir nous pousser à pouvoir les respecter? Quel est le contenu de leurs publications sur Internet? Regardez le mouvement que font les femmes sur Internet. Quand elles passent, soit elles rient bizarrement, en train de vouloir monter les habits. C'est ça je sais pas si c'est naturel ou c'est quel instinct qui leur anime.
Oui, il y en a d'autres qui font des publications juste pour montrer leur physique, et voilà.
C'est ça que j'ai dit, monsieur Joubi.
Le marketing personnel.
Aujourd'hui, vous me parlez, peut-être que vous comprenez le Swahili, il y a des gens, nos soeurs qu'on appelle des femmes de trottoir, excusez-moi l'expression.
Oui.
Elles sont en train de s'insulter avec leur rival en Swahili. Donc, on prend la biologie, on amène sur Internet dans des langues nationales. Je ne peux pas ici les répéter par éthique, par tout ce que vous connaissez. Avec ça, vous nous imposez de vous respecter. Mais mettez quelque chose sur la table. Commencez par vous respecter pour que vous ayez le respect des hommes.
D'accord.
Le respect enchanté que vous voulez des hommes.
Merci
parce
beaucoup.
Ça devient un peu comme dérangeant, comme bruyant.
Oui.
Monsieur Jody, que les femmes reviennent toujours à vouloir demander le respect, alors qu'elles sont les premières à pouvoir ne pas se respecter sur Internet.
Merci beaucoup, Jeannot Louemboué.
J'ouvre une
parenthèse. Oui, merci beaucoup.
Laisse-moi finir, s'il vous plaît.
Allez-y rapidement.
Oui. Vous aviez parlé d'une autorité nationale parlant de sa grossesse. Bon, je pense que ça, moi, j'ai pas bien pris ça parce que il y a aussi les femmes qui en faisaient des commentaires, hein. Je ferme la parenthèse. Alors, la question que je pose, j'aurais voulu qu'il y ait aussi une femme dans cette émission pouvant répondre à nos questions. Qu'est-ce que les femmes mettent sur la table pouvant pousser aux hommes à pouvoir leur respecter, leur donner ce respect qu'ils les cherchent? Merci beaucoup.
Merci, Jeannot. Blaise Saïd, vous êtes à Kisangani. Nous parlons des stratégies à adopter pour lutter contre la violence numérique à l'égard de la femme et de la jeune fille. Blaise Saïd de Kisangani, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allô, Blaise? Il n'est plus en ligne. Bien, Maître Barthélémy Sebouyang, vous avez la parole.
Oui, monsieur le journaliste, je voulais d'abord répondre à la question selon laquelle est-ce qu'il y a une loi en République démocratique du Congo qui réprime les violences basées sur les genres du numérique? Certainement, il y a une ordonnance. La base de la matière de cette répression, c'est l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant les codes numériques. Donc le législateur congolais avait déjà légiféré par rapport à ces différentes informations, à ces différentes infractions. Et maintenant, il devient maintenant à la responsabilité de l'État de faire large diffusion de cette ordonnance, de ces codes numériques, afin que tout le monde, toutes les couches communautaires, même un villageois, une villageoise qui se retrouverait au fin fond, au coin, un recoin du village de la République démocratique du Congo, puisse en être informé. Parce que, bon, même s'il y a le principe de la loi qui dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il devient aussi dans la responsabilité de l'État congolais d'en faire large diffusion, afin que la population congolaise puisse en être au courant. Et les stratégies pour lutter contre ce genre de violence, je disais tantôt que les stratégies d'abord reviennent à la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit occuper la première place pour réprimer vigoureusement ce genre de violence qui porte atteinte à la vie humaine, à la vie réputationnelle d'une personne. Alors, au-delà, les organisations que nous sommes doivent aussi porter main forte à l'État pour véhiculer concrètement, convenablement cette loi auprès de la communauté et afin que celle-ci soit valablement informée de cette loi pour que la communauté, que toute personne puisse prendre des précautions afin de ne pas tomber dans ces bavures. Et au-delà de ça, il y a aussi les médias que vous êtes, monsieur le journaliste. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup la radio Okapi, qui est la radio de la paix que nous félicitons tous pour son impartialité, son information lucide et impartiale. Donc les médias doivent aussi jouer leur rôle et toute personne doit se mettre au courant, doit mettre la main sur la pâte pour essayer de vulgariser cette loi et pour en fait que c'est violent, parce que vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, qu'actuellement les violences sur le genre numérique sont en train de prendre une ampleur inconsidérable. C'est pourquoi il est impérieux, il est urgent de prendre des mécanismes pour sécuriser, pour protéger ces domaines, afin de lutter contre les désordres et les troubles de l'ordre public.
Voilà, et vous avez subi les auditeurs qui ont affirmé que les femmes d'abord sont plus présentes sur les réseaux sociaux, par exemple. Elles font beaucoup de publications, mais c'est pour quel genre de contenu? Il y a celles qui s'insultent en ligne, d'autres qui se font passer comme coach sexuel. Et Jeannot posait la question tout à l'heure de savoir, mais les femmes elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font pour être respectées sur les réseaux sociaux avec tout ce qu'on voit comme contenu publié? Au contenu de leur...
Monsieur le journaliste, je vais d'abord recadrer quelque chose. Parce que quand on parle de violences basées sur le genre, on a déjà l'intention de dire que c'est seulement les femmes, la fille qui doivent être victimes ou survivantes des violences basées sur le genre du numérique. Je voulais rappeler ceci, que tout le monde peut être victime. Que ce soit homme, femme, fille, garçon, autorité et subalterne. Donc, les violences basées sur le genre n'épargnent personne. J'insiste sur ça. Ça n'épargne personne. Un autre élément, les violences basées sur... Tout le monde peut être victime et tout le monde peut être bourreau. Donc, ce n'est pas dire que... Donc, l'homme peut être victime des violences basées sur le genre. Nous le voyons. Nous le voyons souvent. Et la femme peut en être de la même. Ce n'est pas dire que quand on parle de violence sur le genre, seulement la femme, seulement la fille qui doit être victime ou bien survivante. Non. Tout le monde, c'est pourquoi je lance un appel. Je lance vraiment un appel pathétique. Que tout le monde puisse, nous devons tous mettre la main sur la pâte pour peaufiner des stratégies, des outils appropriés, des mécanismes, une approche taillé sur mesure et adapté, pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Ce n'est pas une violence qui est seulement commise par une certaine catégorie de personnes au détriment des autres. Non. Tout le monde peut être victime, tout le monde peut être bourreau, parce que nous voyons aussi, il y a des femmes qui violent les enfants, il y a des femmes qui violent les hommes. Nous avons des cas, bon, je vous en épargne les détails. Nous avons des cas où les femmes ont violemment causé tort aux hommes, aux filles qui ont violé les garçons. Donc, ce n'est pas dire que les violences sur le genre, c'est seulement les femmes qui doivent en être victimes ou bien survivantes. Non. Tout le monde peut être victime, tout le monde doit être survivant ou bien survivante, et tout le monde peut être bourreau, tout le monde peut violer. C'est pourquoi il revient à l'État congolais, de renforcer des mécanismes au-delà de cette ordonnance portant code numérique en RDC, et au-delà de la loi du 20 juillet 2006 portant répression des violences sur le genre, au-delà des conventions internationales réprimant ces violences. Tout le monde doit se remettre en cause.
Bien, on va accueillir un instant, maître. On va accueillir Thomas depuis la ville de Kisangani. Nous parlons de violence numérique à l'égard des femmes et jeunes filles. Thomas Ougeni, bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bonjour, monsieur Tati Bobou. Et bonjour à l'invité, c'est Tati de la radio Okapi. Moi, je pense, monsieur Tati, monsieur Jobi, il fallait en tout cas l'initiative d'abord de l'éviter. Parce que c'est que l'éviter, ainsi que toutes les équipes qu'on sont en train de faire, en tout cas, c'est vraiment à saluer monsieur Jobi. Mais par rapport à ça, je m'en vais directement aux questions. La première question, c'est par rapport au financement. Parce que j'ai suivi l'éviter, je ne sais pas si d'où il trouve l'argent, en tout cas, pour organiser, par exemple, il a parlé de beaucoup de choses là-bas. Il y a la prise en charge, il y a la charge juridique également. Tout ça, ça existe de fonds. Ça existe de l'argent. Je ne sais pas si elle a trouvé l'argent ou est-ce qu'il y a un bailleur de fonds, est-ce qu'il y a le gouvernement qui les accompagne dans ce sens-là. Je sais que l'invité pourra nous donner en tout cas beaucoup de précisions pour ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux facteurs. Je ne sais pas quels sont en tout cas les facteurs qui contribuent à l'augmentation de la cyberviolence à l'égard des femmes dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième question. Les facteurs qui augmentent ces fléaux-là. La troisième question, c'est par rapport aux stratégies. C'est pas, qu'est-ce qu'on doit faire, en tout cas, pour sensibiliser le public si les violences numériques et leurs conséquences également. Une autre question, c'est par rapport à la loi, monsieur Jody. Je pense que la loi, c'est ça aussi le problème. Il faut qu'on puisse appliquer la loi. Et pour ça, on doit la vulgariser. C'est aujourd'hui qu'on est en train de suivre ces problèmes. La loi, c'est un problème qui existe bel et bien. Mais la vulgarisation, ça pose un problème. Même si on dit un principe, mais bon, l'INE, ça fait ignorer la loi, mais on doit quand même vulgariser la loi, pour que ça puisse être dans la disposition du public ou de la population. Et je vais citer par ceci, c'est ce que beaucoup des intervenants quand même également ont évoqué. Par rapport également aux victimes elles-mêmes, messieurs Jody. On peut tout dire, mais quelque part, c'est aussi elles-là, ce sont elles également, pardon, qui sont également à la base de ces problèmes-là. Parce que comment je dis ça, monsieur, par rapport à leur façon de s'habiller également, monsieur Tati. Vous voyez maintenant, les réseaux sociaux, c'est une fois que vous habillez très mal là, puisque si vous êtes une femme, là, et vous postez ça sur la toile, soyez assis, monsieur.
Ça va attirer beaucoup de vues.
Beaucoup de vues sur ça. Et quelque part, là, c'est aussi ça, c'est pour que les femmes, pour savoir, en tout cas, peut-être les bébés, les consoles, là, parce que si vous êtes mal habillé et que vous postez ça sur les réseaux sociaux, il y aura toujours des réactions. Quoi que vous êtes, il y aura toujours des réactions dans le sens, là. Je crois aussi que c'est quelque part à attirer également l'attention de nos femmes, là, de nos jeunes filles, là, de bien s'habiller également, parce que il y a aussi l'infraction des qui va entrer en ligne de compte là.
Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Thomas. Merci. Oui, d'accord. Merci. On va donner la parole à Papi Mboyo de Mbandaka. Bonjour Papi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la violence en ligne à l'égard des femmes et des jeunes filles?
Bonjour Monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi. Monsieur Tati, de prime abord, j'aimerais saluer d'abord la quintessence même du sujet. Il est très important, monsieur Jody, d'aller dire. Aujourd'hui, dans le monde entier, le monde numérique est vraiment bat son plein. Bat son plein. C'est un monde qui nous a amené, on fait dire quelque part, le développement. Et de l'autre côté aussi, ça nous tue aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent mettre en place. Donc, pour aller dans les petits soucis, je vous dirais, avant d'y arriver, un jour ici, on a condamné un officier en Mbandaka ici, qu'on a violé une fille, une mineure, on l'a amené chez les capitaines dans l'un des territoires ici, on l'a amené chez les capitaines là pour qu'ils tranchent les problèmes, les capitaines là bien tranché les problèmes, il a arrêté les bourreaux là, et en allant, monsieur, je vous dis, en tournant le dos, le capitaine lui-même aussi, on met le même forfait. On va lui attraper et il était jugé ici devant la mairie de la ville de Mbandaka. Il était condamné. Donc aujourd'hui là, vous pouvez comprendre. Je ne sais pas si vous m'entendez, monsieur Jody.
Oui, oui, on vous capte 5 sur 5.
Ok. Donc aujourd'hui là, moi je trouve que la responsabilité doit être partagée, monsieur Jody. Vous avez ici en Mbandaka, je ne sais pas si partout ailleurs, vous avez des filles qui vous disent, non, toi tu n'es pas à mon niveau. Toi tu n'es pas à mon niveau. Donc, une fille déjà de 14, 15 ans a besoin d'avoir un téléphone Android pour publier, pour faire n'importe quoi. Donc, la responsabilité, on peut dire, c'est vraiment partagé. Et moi, j'aimerais aller tout droit dans les petits soucis demandés à maître. Quel est l'impact, la première question, quel est l'impact négatif des numériques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un impact négatif? Parce que nous croyons, auparavant, hier, on était là sans téléphone. On a des sérieux problèmes, il faut aller voir, visiter quelqu'un à Massina, il faut aller le voir à la maison. Mais aujourd'hui, grâce au téléphone, vous l'appelez, moi je suis à la maison, arrive, vous arrivez. Alors aujourd'hui, le même téléphone nous amène encore d'autres préalables. Donc l'invité nous dit quel est l'impact négatif sur les pas socio-économiques. Et bébé, l'invité a parlé de l'air clinique ici, juridique. Moi je voudrais comprendre. Lui, en tant que coordonnateur de cette clinique-là, qu'est-ce que lui il propose des solutions au gouvernement pour une mesure d'accompagnement pour arrêter ces fléaux.
Merci, hein, Papi Mboyo. Merci bien, Papi Mboyo, depuis la ville de Mbandaka. Maître, vous avez suivi toutes ces préoccupations. On incrimine les femmes elles-mêmes comme étant, elles sont à la base de toutes ces violences qu'elles subissent sur les réseaux sociaux à cause de leurs publications. Les contenus qui posent problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs par rapport à tout cela?
Merci, monsieur le journaliste. Je salue encore la bravoure de nos auditeurs, parce que je comprends qu'ils nous suivent attentivement et dans les petits détails. Par rapport à la première question, d'où nous tirons le financement pour mener toutes ces activités? Et je voulais répondre à cette question pour dire ceci. Et c'est parmi le financement, c'est parmi les défis. Manque de financement, c'est parmi les défis que rencontrent beaucoup d'organisations. Parce que vous êtes sans ignorer que l'État congolais n'accompagne pas, ne finance pas des activités pareilles. L'État congolais se limite seulement à légiférer la loi et c'est fini. Les mesures d'accompagnement de cette loi, il n'en s'en occupe plus, et le financement ou bien appuyer les organisations locales, nationales et qui œuvrent dans ce domaine, l'État n'en pense plus même. C'est pourquoi le manque de financement, c'est parmi les défis que rencontrent les plusieurs organisations qui militent dans ce domaine, même si bien sûr il y a quelques bailleurs qui se manifestent volontiers de soutenir nos actions. Oui. Mais il faut savoir que la clinique fait ses activités par financement, par les moyens de bord. par les moyens de bon.
D'accord.
Et nous, des petites cotisations de nos membres. Et bien qu'il y a des personnes de bonne volonté, des ONG internationales
Maître
qui
Barthélémy,
nous appuient, soit paix.
D'accord. Maître Barthélémy, quels sont les facteurs favorisants de la cyberviolence?
Oui, oui. Et les facteurs favorisants, et vous êtes sans ignorer, monsieur les journalistes, que les violences numériques basées sur le genre se produisent dans un environnement où se combinent des facteurs. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs technologiques, culturels et économiques, mais également institutionnels. Parmi les facteurs favorisants, il y a les inégalités de genre et les normes patriarcales qu'on doit déconstruire. Il y a l'anonymat, la facilité d'accès aux technologies. Il y a l'insuffisance de régulation et des sanctions. Il y a une faible protection des données personnelles, même si c'est consacré dans les codes numériques. Il y a aussi l'inégalité d'accès et des compétences numériques. Il y a l'hypersexualisation des femmes dans les médias et les réseaux sociaux, comme on l'a dit, quelles sont les femmes qui s'exposent, leur habillement, tout ça. Il y a aussi le cyberespace comme espace permissif. Donc, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs favorisants et par rapport à ces violences basées sur le genre. Il y a aussi qu'on a oublié, il y a aussi les causes profondes. Il y a aussi les causes profondes qui se familiarisent aussi sur le... qui rime ensemble avec les facteurs favorisants. Et je veux répondre à la question de notre auditeur qui disait quel est l'impact négatif du numérique aujourd'hui. Bon, vous savez que chaque évolution technologique a ses avantages et ses désavantages. Et parmi les impacts négatifs, il y a la désacralisation de la dignité humaine. Donc la vie humaine est désacralisée. Et une personne peut se réveiller un bon matin, il prend son téléphone, il commence à insulter, il commence à injurier, il commence à publier des images obscènes d'une personne sans que cette personne ne puisse pas donner son consentement. C'est parmi les impacts négatifs de ce genre de violence. Il y a une question qui avait tablé sur la proposition d'une mesure d'accompagnement. Il y a toujours des mesures d'accompagnement. C'est maintenant la mise en application de ces mesures qui cause problème. Hein, voyez, par exemple, nous, la clinique juridique Justice pour tous, nous avons des approches, nous avons la méthodologie que nous proposons au gouvernement. Mais c'est maintenant, c'est au gouvernement maintenant qui est l'autorité régulatrice de mettre ça en pratique. Nous ne sommes pas là pour contraindre. Nous nous proposons, on se limite par là. C'est maintenant à l'autorité compétente, c'est à l'État maintenant d'appliquer. Donc c'est une problématique d'applicabilité maintenant et de la loi sur les codes numériques. Comme je l'ai dit tantôt, qui n'est pas vraiment vulgarisé. C'est une nouvelle loi, c'est un nouveau code que plusieurs personnes d'abord n'en savent rien. C'est pourquoi il revient à l'État congolais de mettre en place des stratégies, des mécanismes pour que d'abord cette loi soit réellement connue de tous et que cette loi soit appliquée par tout le monde. C'est ça la problématique, monsieur le journaliste.
Bien, tout à l'heure, j'ai vu une réaction de Jeannot qui avait posé la question de savoir qu'est-ce que les femmes font elles-mêmes pour se faire respecter sur les réseaux sociaux et ne pas être victimes des violences. Et il dit, vous dites que voilà, c'est tout le monde, les hommes comme les femmes, on est victimes de la cyberviolence, mais d'après lui, les hommes sont présentés souvent comme étant les agresseurs sur les réseaux sociaux, les auteurs de ces violences à l'égard des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
C'est ça, bien sûr, une entorse. Bon, moi, j'ai insisté là-dessus pour dire que ce n'est pas seulement les femmes qui sont des victimes, qui sont des survivantes. Il y a même des hommes qui sont victimes, qui sont des survivants des violences basées sur les genres. C'est une interpellation à l'État d'abord, que l'État puisse sensibiliser et les femmes et les hommes sur les méfaits, sur les impacts négatifs de ce genre de violences, afin que chacun puisse prendre sa responsabilité. C'est comme ça, donc, je reviens encore sur ça pour dire que le fait de dire que ce sont seulement les femmes qui doivent être victimes ou bien survivantes et que seulement les hommes qui doivent être les agresseurs, c'est une entorse. Ce sont des stéréotypes qu'il faut déconstruire parce que tout le monde peut être victime et tout le monde peut être survivant, tout le monde peut être agresseur, sans exception. Je l'ai dit, c'est parce que j'ai une grande expérience dans ce domaine de lutte contre le VBG, monsieur le journaliste. Je vous informe que j'ai maintenant 14 ans de terrain, pas de bureau, parce que la lutte contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas une lutte de bureau climatisée, c'est une lutte de terrain. Il faut être dans la communauté, il faut comprendre la communauté, il faut étudier la communauté. Et sans oublier, il faut aussi impliquer réellement cette communauté dans cette lutte. Il faut impliquer les femmes, il faut impliquer les hommes, il faut impliquer toutes les couches de la communauté pour la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est pourquoi aussi, il faut aussi maintenant des outils.
Alors, dites-nous, maître
Sebunzangwe,
est-ce que aujourd'hui la RDC dispose de ces outils qui permettent de poursuivre les auteurs des propos sexistes ou les auteurs des publications qui touchent l'honneur des femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent permettre de les poursuivre et d'être punis par la loi?
Oui, monsieur le journaliste. La République démocratique du Congo a suffisamment légiféré sur ce domaine. J'avais parlé tantôt du code numérique. Nous avons tout un ministère, monsieur le journaliste, des postes, télécommunications, des choses pareilles. Tout un ministère qui est censé réglementer collégialement en concours avec le ministère de la Justice, le ministère des Genres, Familles et Enfants. Donc ce ne sont pas des outils qui manque à la République démocratique du Congo, mais la problématique, c'est l'applicabilité de ces outils. Il y a suffisamment d'outils, messieurs les journalistes, mais c'est l'applicabilité, c'est la volonté permanente de l'autorité compétente qui est l'État congolais de mettre ces outils en application pour réprimer sévèrement ce genre de violence. Donc ce n'est pas question de manque d'outils, mais c'est la volonté permanente de l'État congolais et d'autres autorités et détentrices de pouvoir répressif.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes elles-mêmes qui s'exposent sur les réseaux, vous avez suivi, qui s'habillent très mal ou qui font souvent des vidéos qui laissent à désirer ou pour juste montrer voilà leur corps, faire du marketing personnel, tout ça, les tiktokeuses, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire elles-mêmes pour n'est pas tombé dans ces cas de violence sur le numérique?
C'est une interpellation, c'est une interpellation pathétique que je fais à ces femmes et que ces femmes puissent prendre connaissance d'abord du code numérique, qu'ils puissent d'abord avoir le temps de lire ce code parce que ce code a prévu des sanctions sévères contre toute personne qui entravera les dispositions qui sont déjà mises dans ce code. Deuxièmement, que ces mêmes femmes, je les interpelle et je les invite à s'impliquer activement dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans le numérique. Parce que vous êtes sans ignorer que la femme, c'est une personne qui nécessite des honneurs, qui nous suite vraiment une dignité incontournable, mais si cette femme-là, qui est censée être honorée, respectée et respectable de la communauté, se range maintenant en ordre d'utile de bataille maintenant pour enfreindre les mêmes lois, les mêmes dispositions qui sont censées la protéger. Vous comprenez que donc c'est une interpellation d'abord aux femmes et aussi à l'État congolais. L'État congolais aussi doit aussi multiplier des mécanismes contraignants pour que tout le monde, femmes, hommes, puisse respecter scrupuleusement les différents dispositifs qui sont dans ce code, afin que la loi soit respectée. Seulement ça, donc, la femme doit être, j'interpelle leur conscience, qu'ils puissent se regarder en face, leur honneur, leur dignité qui est mise en berne par elles-mêmes. C'est ça, messieurs les journalistes.
Bien, merci beaucoup, maître Barthélémy Sebouyangé, expert en VBG, violence basée sur le genre, et directeur exécutif de la clinique juridique Justice pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger autour de violences numériques à l'égard des femmes et des jeunes filles. Excellente journée, maître, et à la prochaine.
Merci, monsieur le journaliste, et merci à la Radio de la Paix.
Bien, restez à l'écoute du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Dans quelques instants, nous allons suivre les informations et on va se retrouver juste après pour aborder un autre thème qui va certainement vous intéresser. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez les 099 706 99 41.